Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole.
Comme tous les jeudis, on m'a dit pendant la pause que je m'étais trompé, que j'avais dit mercredi, on parle international dans Prenez la parole de 19h à 20h sur Sud Radio. L'opération Hamilton, puisque c'est le nom donné au bombardement franco-britannico-américain sur la Syrie le week-end dernier, avait été placée sous la responsabilité de la France. Un fait sans précédent pour une opération de cette importance, a déclaré à l'AFP le général André Lanata, le chef d'état-major de l'armée de l'air. Pour la première fois dans cette opération, la France a tiré des MDCN, le missile de croisière navale. Un changement de gamme stratégique, assurait en 2015 le chef d'état-major de la marine, l'amiral Bernard Rogel, désormais chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron. La France est désormais en effet un des quatre pays, avec les USA, la Russie et le Royaume-Uni, qui utilisent dans ce domaine des missiles américains, à disposer de ce type d'armes tirables depuis les frégates multimissions et bientôt des sous-marins. Avec 34 milliards d'euros de budget, nos armées ont-elles encore les moyens de nos ambitions diplomatiques? L'armée française est-elle encore au niveau? Bref, dans quel état se trouve notre armée? C'est la question qu'on va se poser ce soir jusqu'à 20h. D'en prenez la parole sur Sud Radio.
Et pour vous répondre, Philippe David, nous sommes en compagnie d'Hélène Conway-Mouret et de Jean-Marie Bockel, tous deux membres du Sénat et membres surtout de la Commission des Affaires étrangères, à la Défense et aux Forces armées. Je n'ai pas dit de bêtises. Bonsoir à tous les deux. On va vous poser la question très simplement. Vous, dans quel état vous la trouvez, vous qui êtes en première ligne, j'ai envie de dire, pour l'observer, cette armée française? Hélène Conway-Mouret.
Alors c'est vrai que nous allons assez souvent au contact des troupes à la fois sur le territoire français. Nous sommes allés récemment à Saint-Dizier et puis aussi au contact à Barkhane, puisque nous avons une délégation sénatoriale qui s'est rendue sur place dans trois pays, le Tchad, le Niger et le Mali. Nous faisons avec Jean-Marie Bockel partie de cette commission qui en effet lie affaires étrangères, défense et forces armées, ce qui nous permet d'apprécier ce que nos forces font, mais également ce que nos diplomates font. Parce que vous avez bien raison de dire que la diplomatie est finalement ce qui peut apporter une solution à un conflit et que les forces armées sont là un moment pour frapper. C'est ce qui s'est passé en Syrie avec les bombardements. C'est ce qui s'est passé au Mali aussi avec l'intervention française en 2014. Et puis ensuite, la diplomatie, le politique reprend la main.
Jean-Marie Bockel.
L'armée française, elle est dans une situation paradoxale. D'un côté, c'est une des meilleures armées du monde. C'est la seule armée européenne, avec dans une moindre mesure les Britanniques depuis l'Irak, ils ont eu un peu une baisse et une sorte de découragement. La seule armée européenne en capacité de faire la guerre et, comme on dit, d'entrer en premier. Hein, que ce soit à terre, en mer ou dans les airs, et elle a des chefs remarquables, un encadrement de très bonne qualité, des soldats hommes et femmes bien formés, motivés, aguerris. C'est une armée dont on peut être fier. D'un autre côté, depuis des années, tout gouvernement confondu, elle a traversé des RGPP, hein, c'est-à-dire un certain nombre de suppressions de régiments. Alors, pour partie, elle avait besoin d'évoluer. Hein, pour partie, c'était nécessaire.
Vous pouvez expliquer rapidement RGPP
à nos auditeurs. C'est très simple. On a réduit le format des armées dans les années 2000 de manière drastique. Hein, et ça a touché les trois armes. Moi, je peux vous dire, j'étais au gouvernement à l'époque, donc en quelque sorte, je me sens concerné. Mais
vous êtes ancien secrétaire d'État à la Défense et aux anciens
mais
combattants.
Mais on est allé certainement trop loin et surtout...
Trop vite.
Et surtout, je ne sais pas, mais en tout cas, le monde a changé. Et dès qu'on a été confronté à une montée en puissance de notre présence, le Mali, etc., sur les théâtres extérieurs, on s'est rendu compte qu'on était, comme disait le général de Villiers, dans l'os, à l'os, dans le dur. C'est-à-dire qu'on a trop économisé, on a des matériels qui ont trop vieilli, le coût de leur maintien en conditions opérationnelles, que ce soit des hélicoptères, hein, que ce soit des véhicules blindés au sol, etc., devient énorme. Et donc, il y a, dans l'actuelle loi de programmation militaire, il y avait déjà eu dans la précédente loi de programmation militaire, il faut le dire objectivement, des efforts qui avaient été faits, des combats qui avaient été menés, notamment dans notre commission au Sénat, toute sensibilité politique confondue, pour aider le ministre de la Défense de l'époque, M. Le Drian, hein, à ce que ça ne soit pas la cata. Et aujourd'hui, l'actuelle loi de programmation militaire est correcte, nous permet, y compris au niveau des matériels, de leur mise en condition opérationnelle, du soldat, hein, également ses conditions de travail, de vie, etc. Il y a une remontée en puissance. Mais tout ça va mettre un certain temps. On est dans un entre-deux. Voilà le paradoxe de l'armée française.
Vous êtes d'accord avec ce constat, Hélène Conway-Mouret ? On est dans l'entre-deux ?
Oui, alors...
Je disais
il y a un instant que, voilà, nous allons très souvent au contact, et ce que nous observons, c'est que nous avons en effet des gens incroyablement motivés, professionnels. Ça, c'est le choix qui a été fait. C'est un choix politique. Souvenez-vous, il y avait la conscription. Et puis, il a été décidé que nous aurions une armée professionnelle. Et donc, en réduisant la voilure, ce qui devait être fait, c'est que l'ensemble des crédits soient investis dans l'armée. Mais au lieu de cela, on s'est retrouvé avec, et ça a commencé notamment sous le président Sarkozy, avec des coupes drastiques parce qu'il fallait...
Déjà sous Chirac, soyons francs.
Oui, mais ça a été accéléré...
Déjà sous Mitterrand, rappelons-nous Fabius qui parlait des dividendes de la paix.
Oui, non, parce qu'on était encore dans cette logique où voilà, beaucoup de Français étaient encore quand même dans des casernes pendant un an, faisaient le service militaire et ainsi de suite. Et donc, après, on a eu... pour cause d'économies qui devaient être réalisées au niveau de tous les ministères. Ce n'est pas simplement le ministère de la Défense qui donnait et qui rendait des crédits. C'était l'ensemble des ministères. Et donc, à partir de ce moment-là, en effet, on a eu des suppressions de postes, 54 000 postes quand même, hein, sur 5 ans. Et le président Hollande a continué, au début de son quinquennat, à faire des économies aussi. Et puis, il y a eu 2014, les attentats du Bataclan, le Mali. Et là, il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné à cette hémorragie. Mais aujourd'hui, nous payons le prix, et c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, nous payons le prix de ces économies qui ont été faites pendant des années, avec des investissements qui auraient dû renouveler les équipements. Aujourd'hui, nous avons des VAB, enfin des
véhicules de l'avant blindé.
Voilà. Qui ont 40
alors,
ans.
Pour ceux qui ont fait le service militaire, c'était les véhicules où on sortait par l'avant, et on rentrait par l'arrière pour transporter les troupes sur les terrains.
Oui, mais ils ont 40 ans aujourd'hui.
Bienvenue au club.
Des mirages qui ont aussi 3 décennies. Mais il y a un autre choix politique qui a été fait, c'est le choix du sublime, du parfait. Et donc, on a mis beaucoup d'énergie et de crédit, surtout sur le développement du Rafale.
40
on a un avion exceptionnel.
40 milliards, c'est
mais,
ça
ouais, bien sûr, mais c'est au détriment du reste. On a aussi choisi, dans un autre domaine, de favoriser le développement du TGV au détriment des
lignes secondaires.
Voilà. Donc ce sont des choix politiques qui sont faits, où on met le maximum d'argent et d'énergie et d'innovation sur un produit, mais c'est au détriment du reste.
Jean-Marie Bockel, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire on a habillé l'armée de l'air et d'assaut avec le Rafale pour déshabiller l'armée de terre.
Bon, il faut, comme on dit...
Dans le micro.
Se mettre...
micro.
Bon, j'essaie de faire la part des choses. Le Rafale, c'est vrai, on a connu ça, y compris que, quand on était amené à le défendre à l'international, etc., à un moment où vraiment... en dehors des commandes de l'armée de l'air et de la marine, il n'y avait pas de clients, quoi.
Oui.
Et puis ensuite, c'est parti, quoi. Hein. Et aujourd'hui, du coup, ça a donné une plus grande viabilité, puisque du coup, l'armée... Les engagements de l'armée d'en acheter un minimum pour préserver le programme...
Il commence à se vendre à
l'Égypte. On en a vendu à l'Égypte, au Qatar et à l'Inde.
Mais c'est, oui, mais enfin...
Je n'ai pas critiqué le choix qui a été fait, je dis qu'un choix a été fait,
Je dis simplement que... Le Rafale est en train de trouver sa place et le Rafale est également en train de montrer de manière opérationnelle, hein, et on l'a vu également dans la séquence militaire que vous avez citée, toutes ses capacités, hein, cet appareil multifonction, hein, c'est quand même, je crois, un choix qu'on a à partir du moment où il a été fait, qu'on a eu raison de porter jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on l'a, et on l'a pour un certain temps. Et l'étape suivante, et moi qui suis européen, je le crois très fort, même si je sais que ce sera difficile, hein, ce sera, je l'espère, je vous parle de, hein, de dans peut-être 30 ans, mais il faut commencer à s'y préparer, ça. Mais ce temps-là, un avion européen...
Mais il existe, c'est le Tornado.
Oui, enfin, je parle d'un avion qui sera au niveau de,
du Rafale.
Des besoins.
Parce qu'à l'époque, on avait proposé à Dassault de rejoindre le programme européen, le Tornado, le Panavia Tornado, et Dassault, on est resté dans un programme franco-français, non ?
Enfin, en même temps, on ne peut pas comparer totalement le Tornado au Rafale.
C'est pas le meilleur avion, ça c'est clair. Mais
c'est vous qui l'avez dit, mais bon.
Non, mais c'était l'avion européen, le premier avion européen. Alors justement, on a parlé des problèmes d'équipement. Alors, ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette émission. Il y a un des missiles Scalp qui n'est pas parti d'un Rafale le week-end dernier. La semaine dernière, une bombe d'exercice a été perdue par un Mirage 2000 au-dessus du Loiret. Il est tombé sur l'usine Forestiane de Nogent-sur-Vernisson. Il y a quand même certains problèmes de qualité, déjà là pour l'armée de l'air, et après on va voir, il s'est passé également des choses dans la marine. Hélène Conway-Mouret ou Jean-Marie Bockel ?
Écoutez, je crois qu'il y a certainement un problème d'usure. Hein. Quand on parle de Mirage, on parle d'avions quand même qui ont plusieurs décennies.
Mirage 2000.
Voilà. À Saint-Dizier, ce que nous avons vu, c'est...
c'est une base aérienne, le contraire. Hein, pour les
voilà, Saint-Dizier, c'est une base aérienne où les avions sont chargés régulièrement pour l'entraînement et faire en sorte qu'ils puissent décoller le plus rapidement possible avec des missiles nucléaires si besoin. Et donc, il y a un entraînement constant qui est fait. Donc, on voit qu'il y a la technicité, mais forcément, quand on utilise de façon très soutenue des matériels, eh bien, je crois qu'il y a un phénomène d'usure. Alors après, il faudra voir, je pense que ce sont des techniciens qui doivent répondre à cette question-là, pourquoi, en effet, malheureusement, cette bombe...
Il n'y a eu que deux blessés. Hein,
voilà,
ça a été,
voilà. Mais, bon. Bien heureusement.
Mais là, pour deux incidents en quelques jours dans l'armée
sur l'affaire du Mirage, moi, j'ai rien de plus à dire. Sur l'affaire des frégates supposées, l'affaire supposée, ce qu'on découvre...
L'Aquitaine, l'Auvergne et le Languedoc. Alors, je vais résumer ce qui s'est passé. Oui. Les trois frégates multimissions, les FREN, qui a été déployées en Méditerranée orientale, ont connu certains déboires en pleine opération. Alors, à leur exact prévu pour le premier tir, un gros bug est survenu. Un rouge a empêché le départ des missiles de croisière sur le premier bâtiment, qui avait été dessiné pour ouvrir le feu. Avant que le second navire ne connaisse la même défaillance, c'est alors la troisième frégate, celle qui était de réserve, qui a dû prendre le relais. Alors, elle a été épargnée par les pannes techniques, et elle a eu ainsi l'honneur de devenir la première unité de la Marine nationale à lancer des missiles de croisière navale, les MCDN. Des couacs qui ont également empêché le tir de nouveaux missiles. Aucune seconde salve n'a pu être lancée à temps.
Bon, d'abord, là, vous faites état d'un article de presse. Moi, j'attends aussi, je ne conteste pas cet article, je dis simplement qu'on n'a pas l'information complète, on n'a pas les explications, on sait qu'elles viendront en temps utile, donc moi, je m'exprime avec quand même un minimum de prudence, mais admettons que ces informations soient exactes, ou en tout cas indiquent qu'il y a eu ce type de difficulté, il faut hiérarchiser les choses. Premièrement, la mission... y compris la partie navale de la mission, a été effectuée avec succès. Ce qui veut dire que ceux qui ont organisé la mission, et là on n'est pas dans des matériels obsolètes, on est au contraire...
À l'IFREM, c'est très moderne.
On est dans du complètement moderne.
Et bon, c'est même de l'ultra-moderne, voilà, c'est parmi les meilleurs au monde.
Et c'est certainement pas la 25e fois qu'ils sont amenés à une opération. Donc, bon, mais en attendant, peut-être parce que les militaires ont prévu que quand on est au début de l'usage... À proprement parler militaire et opérationnel d'un matériel, d'un système, on prend les précautions qu'il faut pour que la mission soit accomplie. Les missions. Imaginez un instant ce que vous seriez en train de dire s'il y avait eu un navire, un seul. Il y en avait trois. Donc ça veut dire qu'on avait prévu les choses. On avait prévu une capacité de tir, hein, même au-delà de ceux qui ont été tirés, et la mission a été réussie, premièrement. Non, je dis ça parce que des incidents, que ce soit avec du matériel ancien ou du matériel
ultra récent,
ça arrive dans l'armée américaine, ça arrive dans les armées les plus modernes du monde, et les militaires, quand les chefs font leur travail, ils le prévoient. Ils l'ont prévu, la mission a été une réussite. Ça, c'est petit 1. Petit 2, naturellement, chaque fois qu'il y a des soucis, si le souci est confirmé, il faut voir exactement ce qui s'est passé avec le fabricant, le constructeur du missile, avec le navire, avec la chaîne, etc., Bon, et puis c'est ce qu'ils vont faire. Hein, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Nous avons naturellement été aux informations. Moi-même, j'ai eu, comme on dit, des éléments de langage très succincts parce que actuellement les navires sont encore en mer.
Oui.
Hein, donc à chaque jour suffit sa peine. Hein. Donc, ok, soyons. On est en démocratie. On est dans la transparence. On a le devoir de poser ces questions. Ces matériels et ces armements sont payés avec nos impôts. C'est tout à fait normal et ils sont censés nous défendre. Mais en même temps. Là aussi, sachons raison garder, la mission a été réussie.
Mais c'est pour ça qu'on en parle ce soir sur Sud Radio, parce que c'est un sujet qui concerne tous les Français, la défense, toutes les Françaises, tous les Français. Hélène Conway-Mouret, vous trouvez ça inquiétant, les incidents qu'il y a eu sur les frégates le week-end dernier ?
Je crois qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas utiliser...
Jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui, et puis, inquiétant, comme le dit Jean-Marie, la mission a été réussie. Si, en effet... Le problème avait été majeur et que aucun missile n'ait pu être tiré et que la mission n'ait pas réussi. Oui, là, on pourrait s'inquiéter. Mais globalement, ça s'est bien passé dans le sens de ce que voulait le président de la République, qui avait dit que si des armes chimiques étaient utilisées, eh bien, la ligne rouge serait dépassée et donc la France interviendrait et c'est ce qu'elle a fait. Voilà, maintenant, je crois qu'il faut tourner la page. Et surtout, il faut faire le bilan, tirer le bilan de ce qui s'est passé, et au niveau des industriels et de nos militaires, de voir, en effet, où il y a eu des blocages. Et voilà, mais on n'a pas à s'inquiéter. Ça s'est bien passé. La mission a été réussie. Voilà.
Pareil pour les Rafales, dont on parlait tout à l'heure. Qui ont été au top.
On va pouvoir en reparler jusqu'à 20h dans Prenez la parole. Hein. On se pose la question de savoir dans quel état est notre armée avec Hélène Conway-Mouret et Jean-Marie Bockel du Sénat. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Vous intervenez au 0826 300 300. On revient dans quelques instants sur Sud Radio.
Le grand soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole.
Comme tous les jeudis dans Prenez la parole de 19h à 20h, on parle international et on se pose la question de savoir dans quel état se trouve l'armée française. Nous sommes en compagnie d'Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste et membre de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, et Jean-Marie Bockel, sénateur et membre de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, donc tous deux sénateurs
centristes
et anciens secrétaires d'État à la Défense et aux anciens combattants. Alors, on a tiré pour la première fois le MDCN, le missile de croisière navale, pour la première fois, 2,8 millions d'euros pièce. Est-ce que c'est une révolution pour notre armée ? Parce que le chef d'état-major de la marine, enfin, qui est maintenant chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, avait parlé de changement de gamme stratégique, Jean-Marie Bockel.
Oui, parce que nous avons aujourd'hui, tout à l'heure, Hélène Conway parlait de diplomatie prenant la suite du militaire, et c'est ça, hein, le militaire prépare toujours le politique. Or, aujourd'hui, dans le monde dangereux dans lequel on est, les marines, et notamment certains vaisseaux, bien sûr les porte-avions, mais aussi des vaisseaux de type Mistral, hein, qui sont à la fois porteurs de missiles, d'hélicoptères, transport de troupes, etc., hein, qui sont aujourd'hui sont aussi dans ce rôle. Et l'équipement militaire de missiles que vous évoquiez doit leur permettre de remplir ses missions. Hein, bien sûr, en complémentarité avec ce que peuvent apporter des aéronefs, des rafales en l'occurrence. Et je pense que ce qu'a voulu dire l'amiral Rogel, l'actuel donc, chef d'état-major particulier du président de la République, lorsqu'il était chef d'état-major de la marine, c'est ça, c'est que nous avons aujourd'hui des navires et des armements sur ces navires adaptés à ce type de mission atypique, avec des conflits asymétriques, avec la possibilité d'être à une certaine distance du champ de bataille, mais pas non plus, je dirais, de l'autre côté de la planète, hein, de pouvoir se déplacer, hein, de pouvoir agir loin, et avec une très grande précision, et avec une capacité d'atteindre des objectifs. Hein, c'est pas du, comme vous l'avez dit,
on va prendre le chiffre,
c'est quand même pas du petit matériel, hein, c'est du sérieux, c'est une forme également de dissuasion,
on peut dire. On peut le rappeler, il n'y avait que trois marines au monde qui avaient ça dans leur arsenal, les Américains et les Britanniques utilisant des missiles américains, les Tomahawk, et les Russes avec les missiles Calibre.
Ce qu'on peut dire d'ailleurs à ce propos, sans vouloir monopoliser là-dessus, c'est que, bien sûr, nous sommes dans l'OTAN, Je suis à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et on a beaucoup de dialogues avec nos collègues des pays de l'OTAN. C'est une alliance qui, à certains égards, parfois est critiquable. À d'autres égards, peut avoir son utilité. Nous avons également l'espérance de renforcer l'Europe de la défense. Nous avons des accords particuliers avec les Britanniques dans le cadre de Lancaster House. Mais notre caractéristique, y compris par rapport aux Britanniques, c'est que nous avons une vraie indépendance. Hein, y compris, pas tous nos matériels, naturellement, hein, on vend et on achète, mais on a une vraie indépendance sur un certain nombre et d'outils et de matériel et d'armement, disons, stratégique.
Avec le missile de croisière navale, on a passé un cap, Hélène Conway-Mouret ?
Oui, je le crois, parce que aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des avions ravitailleurs si nos Rafales ou Mirage devaient tous décoller de la France, mais bon, ils décollent aussi d'autres bases, mais on ne peut pas penser que nous pouvons avoir une présence en permanence partout, d'autant que cela relève des décisions des pays qui sont souverains. Et donc, il est tout à fait important pour être complètement indépendant.
C'est sûr que quand on intervient au Mali, il vaut mieux que le gouvernement malien soit d'accord.
Voilà,
sinon, ça s'appelle une invasion ou une intervention militaire.
Voilà, non, je pensais par exemple à la base que nous avons en Jordanie qui permet à nos avions de décoller de cette base-là. Mais bon, si un jour le roi de Jordanie devait décider que nous n'avons plus de base sur son sol, il faudrait bien que nous soyons indépendants. Et c'est là, en fait, je crois, l'importance, c'est-à-dire de pouvoir agir, parce que nous avons une ligne de commandement qui est très directe. Nous ne passons pas par le Parlement, c'est le chef de l'État qui est aussi le chef des armées qui peut décider d'une intervention. Ça s'est passé au Mali, ça s'est passé pour la Syrie. Et on voit que immédiatement, nos avions, nos bateaux, nos sous-marins peuvent être mobilisés et agir. Donc, nous avons cette rapidité-là, mais nous avons aussi cette indépendance. Et donc, ce type d'équipement nous le donne.
Alors, Adrien Dessouin vient d'arriver, il y a eu des problèmes de circulation. Ce n'était pas l'armée qui barrait Paris, mais c'est les manifestations qu'il y a un peu partout. Vous êtes ancien élève de Saint-Cyr, auteur de La France atlantiste ou Le naufrage de la diplomatie. Le missile de croisière navale, évidemment, vous le connaissez. Est-ce que, alors, on a parlé des problèmes de budget. Le budget de la défense, c'était 32 milliards l'année dernière. C'est passé à 34,2 milliards cette année. Et justement, la grande limite du missile de croisière navale, c'est le nombre d'exemplaires commandés. Initialement prévu à 250 exemplaires, la commande totale n'a été que de 150 engins. Et là, on dérive sur le budget. Est-ce que le budget de la défense est insuffisant pour assurer notre défense ?
Je crois que c'est un constat qui est partagé maintenant depuis une trentaine d'années, depuis que les budgets de la défense en fait, se sont effondrés. On est passé, maintenant, on est à 1,70 du budget. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, dans les années 80...
Du PIB. Vous avez dit du budget.
Excusez-moi, oui, du PIB. On est passé...
On va vers, oui.
On est passé de 6 à 1,7%. Alors certes, on nous a promis un arrêt de l'hémorragie, etc. Mais souvent, on s'aperçoit, quand on regarde le budget, que tout est reporté sur les dernières années de la LPM. Donc,
loi de programmation militaire.
Voilà. C'est-à-dire au moment où, en fait, le quinquennat se termine et c'est le suivant qui récupère. C'est exactement ce qui s'est passé avec François Hollande et même Nicolas Sarkozy.
D'accord. 34,2 milliards, c'est le budget de cette année. C'est trop faible pour vous ?
C'est sûr que 34 milliards, ça peut paraître énorme à ceux qui nous écoutent. Mais en réalité, pour défendre notre pays, et puis pour surtout financer des technologies de pointe qui coûtent de plus en plus cher, avec des volumes malheureusement de plus en plus réduits, il va falloir faire un effort, comme ça a été dit. Il y a une menace de plus en plus forte, que ce soit au Moyen-Orient, qui est en train de s'effondrer, ou des menaces au niveau de l'Europe de l'Est. Donc il va falloir prendre les moyens.
Jean-Marie Bockel, 34,2 milliards, c'est trop faible ?
C'est trop faible, mais il faut voir les engagements qui ont été pris pour aller vers les 2%. Moi, j'ai fait un travail comme parlementaire de l'AP OTAN sur cet objectif des 2%, parce qu'il y a aussi ce qu'on met dedans. Hein, il y a aussi la part d'investissement, enfin...
On ne va pas rentrer dans un débat technicien,
mais c'est vrai que c'est quand même un signe, c'est un signal. Et là, je dirais, la pente est de nouveau favorable. On sent une grande détermination. Ce que vous avez dit, monsieur,
sur... Adrien Dessouin.
Pardon ?
Adrien Desoin.
Ce que vous avez dit, monsieur Desoin, le fait qu'il y a une tendance de reporter toujours l'effort à la fin de la séquence politique, c'est évidemment vrai. C'est déjà arrivé. Donc nous, comme parlementaires, au demeurant toute sensibilité confondue, c'est un peu ce qui nous caractérise au Sénat, à la Commission de la Défense des Affaires étrangères, c'est qu'on est, on sait être très solidaire. Hein, moi, je me souviens, le président socialiste Carrère de cette commission, il y a quelques années, avait menacé de démission et était solidaire, d'ailleurs, de menaces qui n'ont pas été rendues publiques, de démission des chefs d'état-major de l'époque. Et c'était un peu une manière de tordre le bras à l'époque au président Hollande. Mais nous, nous sommes vigilants. Et chaque fois que nous recevons des hauts gradés ou le ministre, ou la ministre maintenant, nous demandons des précisions sur les étapes intermédiaires. Hein, et nous faisons comprendre qu'on ne nous la fera pas. On en est même à demander plutôt des montants que des pourcentages. Enfin, on sait que c'est arrivé, donc on est vigilant. Bon, maintenant, cette remarque est en fait... franchement... Bon, à mon âge, j'ai cessé d'être naïf, je dirais, j'ai quelques heures de vol, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a aujourd'hui, surtout dans le monde dangereux dans lequel on est, une volonté réelle, hein, en espérant d'ailleurs que l'amélioration de la situation financière du pays permettra le moment venu d'avoir la capacité de tenir effectivement cet engagement. Il y a vraiment une volonté de monter en puissance. Je le crois sincèrement. Mais il y a l'amour et les preuves d'amour. Il faut être vigilant.
Après avoir parlé du Rafale, c'est fabuleux de dire qu'on a des heures de vol. Jean-Marie Bockel, Hélène Conway-Mouret. Problème budgétaire ?
Oui, alors je suis co-rapporteur pour le programme 146 qui est l'équipement des armées. Oui. Donc la loi de programmation militaire m'intéresse au plus haut point. Donc je me satisfais en effet de l'augmentation prévue d'1,7 milliard par an sur les trois prochaines années de ce budget qui doit ensuite passer à 3 milliards par an. Donc en effet, en tant que parlementaire, nous allons être vigilants chaque année lors du débat budgétaire qui a lieu en fin d'année. Mais quand même, au niveau des équipements, moi, ce que j'aime dans cette loi de programmation militaire, c'est qu'il y a toute une partie qui est dévouée aux hommes et aux femmes qui font vivre ces armées. C'est une loi de programmation militaire à hauteur d'homme. Hein, c'est le terme qui est utilisé. Et il faut enfin aussi équiper, parce que bon, on parle de missiles, de choses qui coûtent des millions d'euros, mais il y a des choses toutes simples comme avoir un gilet pare-balles correct pour le type de mission que l'on effectue, d'avoir l'équipement en bottes, en vêtements, en casque, en radio et ainsi de suite. Et là aussi, au niveau du quotidien de ces hommes et de ces femmes qui sont incroyablement motivés, qui sont passionnés, enfin il faut les rencontrer.
Qui mettent leur peau en jeu quand même.
Oui, absolument, que ça soit en France ou à l'étranger, c'est la même mission. Eh bien, qu'enfin on puisse aussi dire qu'on est capable et de faire des appels d'offres pour des marchés publics qui ne doivent pas prendre 2 ou 3 ans avant d'aboutir parce que ce que portent ces gens-là est complètement obsolète et de pouvoir les équiper correctement et qu'ils vivent aussi dans un environnement qui soit correct. Donc je pense qu'il y a, différents niveaux, mais vous savez, si nos pilotes sont exceptionnels, si nos marins le sont aussi et toute l'armée de terre également, il faut aussi que nous fassions des efforts à leur niveau, c'est-à-dire l'équipement qu'ils utilisent tous les jours.
Vous mettez ça en avant, Madame Conway-Mouret, de manière très diplomatique, et je le salue d'ailleurs, mais
c'est logique, c'est le plus souvent, des affaires étrangères
quand on parle souvent.
J'ai passé 2 ans aux affaires étrangères. Donc,
de la grande muette, hein, la grande muette, l'armée française, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a pu remarquer quand même avoir des bruits, notamment qui venaient des soldats engagés dans l'opération Sentinelle, donc de surveillance de notre pays, qui parlaient d'une mission au final très fastidieuse, très compliquée, où beaucoup se cherchaient un rôle au final et une réalité d'action dans leur rôle de militaire. Est-ce que il y a un malaise malgré ces performances de formation que vous avez évoquées au sein de notre armée, au sein de nos soldats ?
Je crois que oui. Enfin, il faut regarder le nombre de déserteurs chaque année. Qui est quand même plus d'un million.
1544 en 2017.
Voilà, exactement. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont arrivés incroyablement motivés et qui ont été très déçus et qui, malheureusement, ont quitté l'armée, non pas dans les règles qui sont imposées.
Fin de contrat, c'est-à-dire en fin de contrat.
Voilà. Et donc, voilà, donc c'est vrai, je crois que cela n'a pas simplement trait aux équipements, je crois que c'est aussi les missions qui leur sont données. C'est vrai que quand on est un pilote de Rafale et quand malheureusement on doit exercer la garde d'un lieu de culte, ou de, voilà, c'est pas du tout la même mission, et que, voilà, donc il n'y a pas, on a une motivation forcément
qui... C'est pas franchement la même.
Non.
Je voudrais nuancer. D'abord, on est dans une période où l'armée remonte en puissance. Hein, vous n'avez qu'à voir les publicités pour s'engager. Hein, numériquement, c'est surtout l'armée de terre. C'est toutes les armes qui sont concernées. Et il y a aussi, il y a toujours eu un turnover important. Hein, parce que l'armée, c'est aussi un engagement, 5 ans, 10 ans, c'est aussi le point de départ pour ensuite bien structurer, bien former, faire autre chose. Tout ça est normal. Et l'armée est jeune, elle a vocation à rester jeune. Et donc, dans ce nombre important de personnes, cette montée en puissance, ce turnover, dans la société dans laquelle nous vivons, hein, où un certain nombre de contraintes sont parfois difficilement supportées. Ce n'est pas le propre de la France. Les autres armées européennes sont confrontées parfois dramatiquement, notamment en termes de capacité suffisante de militaires, même pour... Il y a des marins français, de nationalité française, sur les navires britanniques, parce qu'ils ne trouvent pas.
Ah oui ?
Donc, oui, on vit une situation compliquée. Donc, ça, c'est juste pour vous dire... parce que quand on parle de désertion, faire attention, quoi. Ça veut dire, ça y est, tout le monde part.
On n'a pas dit que tout le monde partait sur la mer Rosée.
C'est un phénomène.
C'est un débat, donc j'essaie de donner une position. Si on dit tous la même chose tout le temps, ce n'est plus un débat. Donc, moi, je nuance. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ensuite, il y a les raisons. Il y a d'abord un contexte général que je viens de rappeler. Ensuite, c'est vrai que, prenons l'exemple de Sentinelle, prenons l'exemple donc des soldats qui, dans un certain nombre d'unités, avec tous les problèmes qu'on a dit, de vieillissement des matériels, etc., auxquels elles sont confrontées, Sentinelle a pris un certain temps à trouver vraiment sa place. Quand vous discutez avec des soldats qui ont fait Sentinelle, au début, c'était pas évident. Maintenant, ça a trouvé une sorte de vitesse de croisière. Hein. Donc, je dis pas que tout le monde est en tout... Mais au niveau de la préparation, de la formation, des conditions dans lesquelles ça se passe, de l'intérêt, et aussi, d'une certaine manière, on a vu aussi des soldats de Sentinelle empêcher des attentats ou contribuer à arrêter des criminels. Ça montre aussi qu'on a longtemps dit Sentinelle, ça sert à rien. Bien sûr, on peut discuter, il y a une dimension psychologique, mais quand même. Donc, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui la remontée en puissance, la remontée en force de nos armées va aussi avoir, surtout si on fait les efforts qu'on dit vouloir faire, y compris sur la condition du soldat, je suis d'accord avec ma collègue, sur la famille également. La ministre a dit à plusieurs reprises, je m'intéresse à la famille des militaires. Je pense qu'on peut arriver de nouveau à un étiage normal, parce qu'il y aura toujours des gens qui craqueront, qui claqueront la porte.
Oui,
quoi.
Toujours.
Alors, voilà.
Moi, je voudrais intervenir là-dessus, parce que il y a 1544 désertions en 2017 officielles. C'est-à-dire qu'ils sont... parce qu'en fait, il y a beaucoup de désertions déguisées avec les arrêts maladie, hein, ça on le sait. Donc en fait, le chiffre est sûrement beaucoup plus important que celui-là. Pour l'opération Sentinelle, puisque c'est lié, puisque effectivement ce sont des missions qui sont assez ingrates et qui devraient être réservées, selon moi, soit aux réservistes, soit à la garde nationale, ou au futur service national.
Vous pouvez le dire tout fort.
Je suis d'accord. Moi, j'ai fait un rapport l'an dernier avec une collègue sur la garde nationale. Naturellement que les missions de la garde nationale doivent pouvoir monter en puissance, notamment sur le territoire.
C'est vrai que quand on voit des bérets verts patrouiller dans les rues des grandes villes, c'est assez surprenant.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau logement, mais c'est pourtant une mission qui est assez ancienne, Vigipirate, parce que Vigipirate, ça dure quand même depuis 20 ans.
1995.
Oui, voilà, c'est ça, donc plus de 20 ans. Donc, alors certes, il y a eu une augmentation après les attentats de 2015-2016. Ça a été aussi une façon pour le ministère de la Défense, en tout cas pour les armées, d'arrêter la saignée en disant « Mais regardez, nous fournissons aussi un effort sur la scène intérieure. Il faut nous conserver nos effectifs. Maintenant, moi, j'attends beaucoup de ce fameux service national dont on parle et qui pourrait peut-être prendre la relève sur cette mission.
On poursuit le débat jusqu'à 20h sur ce radio. On va y revenir sur le service national. Vous laisser réagir dans quelques instants, monsieur le sénateur. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Vous réagissez 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole.
Comme tous les jeudis dans Prenez la Parole, on parle thématique internationale et on se pose la question de savoir dans quel état se trouve l'armée française, puisque oui, l'armée c'est plus de l'international, mais c'est aussi du national, bien évidemment. Alors, Jean-Marie Bockel, Hélène Conway-Mouret, vous avez sauté sur votre siège quand Adrien Desmes a parlé du service national. Vous en parliez hier en commission, c'est ça?
Oui, nous avons, avec mon collègue Jean-Marc Todeschini, présenté à la demande du président Cambon et d'ailleurs du président Larcher qui s'y intéressait, un rapport intermédiaire sur les conditions de la réussite du SNU, les pièges à éviter, et tout ça quelques semaines avant que la commission Menaouin, du général Menaouin, désignée par le président de la République, ne rende un rapport qui, à mon avis, sera très rapidement l'arbitrage de l'exécutif, puisque on a voulu quand même mettre en garde contre quelques risques. Là, vous parliez de service militaire, là, on est vraiment sur un service civil. Et la période où les jeunes doivent être ensemble, hein, avec du brassage, avec de la formation à la manière d'être, de s'intéresser également à son pays, de partager un certain nombre de valeurs, enfin toutes ces choses qui ne peuvent se faire que s'il y a un moment de vécu ensemble, avec évidemment, eh bien tout ça, on a l'impression que ça risque d'être découpé en morceaux, qu'il risque d'y avoir un temps tellement court que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Derrière, il y a des enjeux financiers considérables et un engagement du président de la République de ne pas mordre sur le budget de la défense et sur la loi de programmation, ni de manière exagérée sur les personnels militaires, qui, lorsqu'ils s'occupent de jeunes, même hors enjeu de défense, comme le service militaire volontaire, le service militaire adapté en l'outre-mer ou les EPID, c'est des réussites. EPID. Quoi. Les EPID, ce sont des centres où des jeunes qui sont en échec acceptent d'aller pour avoir une deuxième chance, en quelque sorte. Et il y a, c'est pas complètement militaire, mais au départ, c'était un encadrement militaire. Enfin, tout cet ensemble montre la capacité des militaires à prendre en compte ces questions. Sauf que le métier des militaires, hein, c'est de structurer l'armée. Et là, on va pas refaire le service militaire. Donc nous, on a le souci, mais on va attendre, évidemment, dans quelques semaines, que ce projet soit connu, mais que ça ne soit pas de la bouillie pour les chats, ni quelque chose qui finalement ne satisfasse personne et n'apporte pas vraiment ce que les jeunes peuvent en espérer. Par contre, et je termine, là où je vous rejoins, c'est que ce service national aura plusieurs phases, une séquence scolaire, une séquence regroupée en commun, et puis une séquence optionnelle, je l'espère volontaire, où ils pourront par exemple aller vers le service civique, qui existe déjà, qui est une réussite. Hein, 150 000 jeunes en France, 6 mois à 1 an. Mais ils pourraient aussi aller vers la réserve. Et à condition que la réserve sache les accueillir en termes de moyens, une partie de ces jeunes sont, si je puis dire, des clients pour la réserve, d'une réserve qui monterait en puissance et qui pourrait effectivement effectuer les missions que vous avez évoquées.
Hélène Conway-Mouret, puis Adrien Desmes.
C'est vrai que ce qui vient d'être rappelé, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de façons de réunir ces jeunes, de les faire se rencontrer Et si on devait mettre les milliards que vont coûter la mise en place de ce service national universel, on pourrait imaginer que tout ce qui existe aujourd'hui pourrait fonctionner mille fois mieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, c'est sur le plan humain. Qui encadrera et où? Quel coût? Et la question qui chapeaute tout cela, c'est en réponse à quel besoin opérationnel? S'il n'y en a pas, quel besoin sociétal? Mais est-ce que cela doit passer par l'armée? Donc, en fait, nous avons décidé aussi hier en commission que nous déposerions un amendement pour préserver et protéger justement le budget des armées. Mais dans la foulée, je me suis émue, puisque j'ai aussi passé 2 ans au ministère des Affaires étrangères, en tant que ministre délégué auprès de Laurent Fabius, ce ministère qui est le plus pauvre de tous les ministères et qui sert aussi à chaque fois de variable d'ajustement. Donc si les milliards que cela va coûter ne sont pas pris sur le ministère de la Défense, ça va être réparti sur tous les autres, et je crains qu'un grand nombre de ministères souffrent pour la mise en place de quelque chose qui aujourd'hui ne correspond pas à un besoin pressant. Merci. Parce qu'il est déjà adressé de différentes façons par des entités qui existent déjà.
Adrien Desmes, oui, sur le service militaire.
Moi, je pense qu'il y a quand même un vrai besoin, parce que déjà, il y a une vraie demande de la jeunesse de participer à l'effort national dans le contexte actuel. Ça, c'est une évidence, je le vois partout autour de moi. Et je pense que la France a plus besoin que jamais de retrouver une certaine cohésion nationale. Si vous voulez. Et c'est aussi la mission historique des armées, c'était aussi d'assimiler les différentes composantes du peuple français. Et ça, depuis la Révolution, au moins. Donc, moi, ça me paraît vital, aujourd'hui.
Mais justement, on a un commentaire... Oui.
Nous sommes pour... Enfin, moi, je suis pour le SNU. Hein, et notre travail, c'est... Je suis pour le SNU, je le répète, et notre travail, c'est les conditions de la réussite.
Voilà, c'est pas une, avec une semaine en internat, ça, effectivement.
Voilà, bah on est d'accord.
Hein. On va y arriver, ça va être
du gaspillage. Il y a une chose, à mon avis, qui est quand même, soyons positifs, qui est rassurante. On croit savoir, attendons évidemment l'annonce, qu'il y aura une phase expérimentale qui concernera quelques milliers de jeunes. C'est très bien, parce que comme disaient les militaires, vous en êtes, vous en fûtes, il y a un retour d'expérience hein, qui va permettre de calibrer le dispositif avant de le faire monter en puissance sur plusieurs années, ce qui est aussi une réponse à la question budgétaire. Parce que du coup, c'est budgétairement acceptable, parce que ce qu'a dit Hélène à l'instant hein, sur le fait qu'on va taxer un certain nombre de ministères, il y a aussi l'éducation nationale qui est très inquiet, ça c'est un piège. Mais si on monte progressivement en puissance, avec chaque fois une évaluation, on corrige le tir et on bâtit un service national universel qui va dans le sens que vous évoquez, alors on peut gagner la partie.
On a un commentaire d'un pseudo Twitter qui est Tango Charlie Alpha, ça fait vraiment très militaire là, qui dit « Vu ce qu'on accepte actuellement à l'armée, droguée, inculte, etc., elle est vraiment mal, je vous le dis, pour parler de l'armée française. Comment est-ce qu'on sélectionne dans l'armée ?»
Enfin, écoutez, d'autres pourraient parler mieux que moi.
En tout cas, il y a beaucoup de promotions.
Au niveau de l'encadrement, il y a des écoles, hein, officiers, sous-officiers. Mmh. Au niveau des grades intermédiaires, il y a des formations qui sont très strictes. Et je dois dire que ça vaut tant pour les militaires d'actifs que pour les réservistes. Quand vous avez un poste comme soldat, c'est que vous avez été préparé à cela. Et les gens... Bon, il y a des gens forcément toujours qui subissent des traumatismes, qui sont plus fragiles que l'autre, ou des fragilités se dévoilent. Enfin, c'est la vie aussi, l'armée. Mais les exemples extrêmes qu'il a cités, c'est repéré assez vite. Hein, et on ne peut pas dire, on ne peut pas laisser dire que nos régiments soient composés de manière importante hein, de
non,
gens
mais ce que
qui sont
on prend
à la dérive.
Un peu tout le monde, a priori.
Ce n'est pas ce n'est pas vrai. Et par exemple, les jeunes qui sont pris sur test... pour certaines missions peut-être plus difficiles, supposant des qualités particulières, des dispositions, c'est très strict. On ne prend pas n'importe qui.
Alors, je voudrais simplement témoigner des deux jours que j'ai passés avec les Diables Rouges à Colmar. Donc, c'est l'armée de terre, c'est un régiment...
D'élite.
Absolument. Oui.
D'où est issu Jean-Marie Bockel, alors
voilà, le régiment de Jean-Marie. Mais ce que j'ai rencontré là, ce sont des jeunes qui venaient en effet de milieux sociaux totalement différents les uns des autres et qui se retrouvaient pour certains dans un moment qui était très violent pour eux. D'ailleurs, ils le disaient. Ils avaient joué à des jeux guerriers vidéo sous leur couette et d'un seul coup, ils se retrouvaient dans une forêt pendant une semaine où ils perdaient 5 kilos parce qu'on leur faisait transporter des choses très lourdes et que voilà, ils étaient privés de sommeil et ainsi de suite. Et ce sont des gens qui arrivaient à se trouver. Donc, moi, je veux bien qu'en effet, il y ait...
De livret et pas que du bon grain.
Oui, tout et n'importe quoi. Enfin, que tout le monde puisse rentrer. Mais c'est très bien, c'est une bonne chose. Ce sont des gens qui arrivent peut-être avec rien et qui sortent avec un certificat quelconque et qui peuvent se lancer dans la vie.
Adrien Dessoin.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. De toute façon, la solde du militaire de base est quand même tellement faible, si vous voulez, que forcément, ça attire plutôt des jeunes d'un milieu quand même populaire ou peu
défavorisé.
Peu éduqué en tout cas. Et, mais c'est le rôle de l'armée d'apporter aussi un supplément d'éducation parfois à ce que ces gens ont pu ne pas avoir dans le passé. Et donc je comprends ce que dit Madame la Sénatrice, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se retrouvent,
qui se trouvent.
Et il y a une marge de progression.
Jean-Marie Bockel.
On démarre, ceux qui démarrent à la base, avec un salaire qui est modeste, mais qui est comparable à certains salaires qu'on peut avoir dans des emplois de début, exactement. Mais ensuite, s'ils en ont la volonté, ils peuvent progresser, soit techniquement, soit dans les grades, hein, caporaux, sous-officiers. Enfin, c'est vraiment une des entreprises publiques françaises où la possibilité de progresser est la plus forte, oui.
Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, ancien secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens Combattants, Hélène Conway-Mouret, sénatrice et à la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, Adrien Dessouin, ancien élève de Saint-Cyr, auteur de « La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie ». Maintenant, comme tous les soirs, c'est le loft musique de notre ami Yvan Cujous, une émission qui s'intitule, et c'est tout un programme, ça va être très vaste, entre tradition et modernité. Restez bien avec nous sur Sud Radio.